mode d'emploi. Sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission des chômeurs et des précaires.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Et oui, bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs précaires. Comme vous venez de l'entendre, nous avons changé d'indicatif, effectivement. Merci à Claude de l'avoir préparé. Car l'ancien indicatif, ça faisait 10 ans que nous l'avions. Et il n'était plus d'actualité puisqu'on parlait à l'époque de l'ANPE, alors qu'aujourd'hui c'est le Pôle emploi qui a pris sa place. Et puis une deuxième chose aussi, c'est que là vous avez pu entendre la voix de Sarkozy. Rassurez-vous, c'est fini, bientôt il ne sera plus là pour nous embêter. Et il a été viré pour incompétence en gros, voilà. Donc c'est mode d'emploi.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bien. Alors voilà, donc mode d'emploi reprend. Voilà, très bien. Donc bonjour à Claude qui est à la technique, à Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Voilà, j'ai le micro également. Alors on va commencer cette émission tout en chômage par le fait qu'il y a eu 300 personnes devant l'hôtel de ville le 22 mars pour protester contre le travail précaire. La ville de Paris, il faut le savoir, emploie 20 000 non titulaires, dont 80% sont des femmes. Tiens, tiens, ça vous étonne? Le 22 mars, c'était la manif des femmes travaillant dans les cantines scolaires. On écoute plus tôt. Donc voilà, donc c'était les cantinières en fait de la ville de Paris qui étaient en manifestation. Elles étaient entre 300 et 400.
Alors oui, je travaille pour la mairie de Paris en fait en tant que contrat aidé depuis presque 5 ans. Donc avec deux employeurs successifs en fait.
Alors. C'était deux employeurs différents?
Oui, c'était deux employeurs différents, en fait, la mairie du 13e et après la direction jeunesse et sport. Donc.
D'accord. Et est-ce que c'est légal de rester 5 ans en contrat à durée déterminée?
Non, c'est pas du tout légal, en fait. C'est juste que, voilà, c'est des besoins. Il y a des besoins, en fait, qui sont au niveau des services et qui peuvent pas... Enfin, des emplois qui peuvent pas être faits... Enfin, qui... Voilà, ils veulent pas mettre de fonctionnaires, donc ils prennent des contrats aidés pour faire la même chose.
Et c'est quel type de travail?
Bah là, en fait, c'était le premier, c'était j'étais assistante à la culture. Donc, j'aidais en fait la chargée de mission pour tout ce qui était festival. Enfin, j'accueillais les artistes, etc. Donc, c'était un poste quand même responsabilité. Et après, là, maintenant, je suis assistante en fait de communication à la direction jeunesse et sport. Donc,
D'accord, donc c'est quand même des tâches qualifiées, quoi.
Oui. Oui, oui, c'est des tâches qualifiées où il faut...
Vous avez des diplômes
Oui, ah ouais, j'ai un bac plus 5 en fait, donc voilà, il faut quand même maîtriser pas mal de choses.
Voilà, hein, bac plus 5 et depuis 5 ans vous êtes en contrat à durée déterminée.
Oui.
Oui, oui. Bah il faut que ça sache. Et alors vous avez un procès au prud'homme là
Oui, 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 j'ai fait donc une action en fait pour pouvoir reconnaître mes droits. Pour avoir une requalification en CDI.
Tout à fait, c'est ce qu'il faut faire.
Pour reconnaître en fait la durée.
Oui.
Être qualifié depuis le début, quoi.
Voilà. Oui,
c'est... Parce que j'ai eu en fait 8 renouvellements successifs en CDD. Donc, c'est quand même. Voilà.
Oui, d'accord. Mais il y avait une petite interruption entre deux contrats ou
non, il n'y a eu jamais aucune interruption.
Il n'y avait même pas d'interruption.
Ça permet de la requalification du contrat, c'est-à-dire qu'il n'y a eu jamais aucune interruption.
Donc juridiquement, c'est tout à fait envisageable de requalifier votre contrat.
Oui, tout à fait, ouais.
Et il y a un syndicat qui vous a pu
Oui, je suis représentée en fait par le syndicat des non-titulaires, CGT non-titulaires.
Ouais. D'accord, bah, je vous souhaite bon courage et puis j'espère que... Alors c'est quel jour le procès, ça va être le...
En fait, c'est passé le 9 février, donc j'aurai le résultat le 28 mars et il y en a
d'autres
qui suivent en fait.
D'accord.
Apparemment, on est 10-15 comme ça. Donc,
ah, vous êtes plusieurs dans ce cas-là.
On est plusieurs à faire des actions au prud'homme. Ouais.
Très bien, bah, je vous souhaite bon courage et de réussir.
Merci.
Alors pourquoi vous êtes venu ici ?
Voilà, alors il y a plusieurs raisons. La raison la plus importante, c'est qu'il y a des dames qui sont là depuis des années, qui ne sont pas titulaires. Donc ce qui veut dire que ces dames-là vont se retrouver comme moi, 61 ans, attendre 6 ans, 8 ans pour pouvoir racheter ses points, pour partir avec un retraite de fonctionnaire. Deuxièmement, il y a des dames qui donnent des contrats de 3 ans. Après, on les enlève, on leur met un contrat d'un an. Il y a des dames qu'on embauche de 6 mois. Au bout de 6 mois, ça veut dire que ces dames-là, elles sont dehors. Et on nous ramène d'autres personnels. Donc, ce qui fait que nous, les responsables, nous passons notre temps à former une équipe pour que ça puisse soit dans l'ordre. Et donc, les dames, elles n'ont pas de fiche de paye. Elles ne peuvent même pas prendre de crédit, elles ne peuvent même pas avoir un logement, ni rien du tout. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on...
Et j'ai vu un panneau où il y a marqué 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Voilà, ben oui.
C'est possible d'avoir été 20 ans en contrat précaire ?
Ah oui, tout à fait. Moi, ça fait 20 ans, là. Depuis 92, j'ai commencé à la Caisse des écoles.
En tant que quoi ?
En tant que vacataire. Voilà,
vacataire.
Je ne suis pas mensualisée.
Et avec combien d'heures par semaine alors ?
38 heures.
38 heures par semaine ?
Oui.
Et ça, c'est plus que...
Bon, même pas, parce que je suis rémunérée que lorsque je suis présente. Quand je ne suis pas présente, je ne gagne rien. Alors, comme à la cantine, vous savez, on marche avec le système des vacances.
Mais vous faites quand même 38 heures par semaine ?
Pas tout le mois, pas tous les mois. Quand il y a les vacances scolaires, eh ben, nous sommes obligés de ne pas travailler.
D'accord.
Voilà. Et quand on ne travaille pas, ben, nous ne sommes pas rémunérés.
D'accord.
Voilà.
Et oui, mais c'est quand même un contrat, que vous avez quand même un contrat.
Oui, moi, j'ai un contrat à durée indéterminée. Voilà.
C'est un contrat de vacation ou un contrat...
Un contrat à durée indéterminée, moi. Mais il y en a qui sont d'autres, il y en a qui ont d'autres statuts.
Ah, d'accord.
Voilà, il y a d'autres qui sont...
De vacation.
Voilà.
Oui.
Maintenant, ils mettent de plus en plus de temps à faire signer un contrat à durée indéterminée. Comme disait là la collègue, ben parfois ça dure 6 ans sans pouvoir le signer.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Les 3 ans, ils descendent à 1 an. Et puis les nouvelles qui sont embauchées, elles ont des contrats de 6 mois. Et les mercredis, elles le font travailler, on leur donne des postes de 4 heures. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 4 heures ? Dans la semaine, vous faites...
4 heures par jour ?
Oui, 4 heures le mercredi.
Et les vacances scolaires. Seulement le mercredi ?
Le mercredi et les vacances scolaires.
Oui.
Donc, ce sont toutes des mères de famille.
Oui.
Hein ? 15 jours à Noël, elles ont 4 heures.
Alors, c'est des personnes qui travaillent dans les cantines des écoles ?
Oui, dans les cantines des écoles scolaires du 16e. On est dans la... Nous sommes...
Et votre qualification, c'est quoi, alors ?
C'est-à-dire que ça dépend. Moi, je suis chef, donc elle aussi.
Vous êtes responsable.
Je suis responsable, d'accord. Mais moi, j'ai plein d'équipes, des dames de mon équipe qui ont des contrats. J'ai une dame qui a été embauchée en novembre et ça veut dire fin mars, ben, elle est dehors.
D'accord. Sur le tas.
Voilà.
Ah oui.
Voilà, nous avons appris notre travail sur le tas.
Bah oui.
D'accord. C'est les chefs qui nous forment.
D'accord.
Voilà.
Mais dès qu'on commence à mettre un truc en place, ça marche bien, hop, ils changent. Ils changent tout le temps du monde.
D'accord.
Et les gens sont mal payés.
Combien à peu près ?
Ah, je sais pas, ça dépend des salaires. Ça, je ne sais pas.
C'est le SMIC en général.
Oui, c'est le SMIC de là, ouais.
Sauf que il y en a beaucoup qui sont en temps partiel.
Voilà.
Voilà.
Temps partiel. De plus en plus temps partiel.
4 heures, 5 heures.
Oui.
Les 4 heures pour une personne. Parfois, il y a ça qu'on sait quand on fend. La personne doit mettre les couverts, couper le pain, couper le fromage, tout mettre en place.
Elle doit les aider à manger aussi ?
Non, ça, c'est les animateurs qui le font. Mais nous servons, ça arrive qu'on fasse le service. Mais après, il faut nettoyer. Après, il faut laver la vaisselle, nettoyer les tables.
Ah, elles font le service alors ?
Voilà. Dans les 4 heures, elles doivent faire tout ça. Oui, voilà.
D'accord.
4 heures, c'est pas énorme.
Et en dehors des cantines, elles font aussi autre chose ?
Ben beaucoup, elles sont obligées.
Oui.
Beaucoup, n'est-ce pas, Marianne ?
La ville de Paris.
Je travaille depuis 30 ans à la ville de Paris. Et puis, le salaire, c'est toujours le même. Moi, je travaille dans l'assainissement et dans le jardin.
Depuis 30 ans ?
Ça bouge pas beaucoup.
Mais pourtant, vous êtes syndiqué ?
Quoi ?
Vous êtes syndiqué ?
Non.
Ah ben c'est ça, faut demander au syndicat pourquoi c'est comme ça alors. Parce que normalement, si le syndicat il vous aide, vous devriez avoir une augmentation.
Non, mais vous travaillez et vous gagnez rien en plus.
Rien.
Non, mais votre salaire, c'est pire.
Normalement, nous, on fait les heures supplémentaires, ça doit être bien payé. Par contre, heures supplémentaires, c'est pas bien payé. Ils nous payent pas bien.
C'est le problème, on a tous les mois une prime. D'ailleurs, moi, je suis pas d'accord pour cette. Au lieu d'augmenter les salaires, ils nous ont donné une prime. Une prime qui s'appelle l'IAT, indemnité technique, je crois, c'est ça. Et quand vous êtes en maladie, et ben votre prime, hein, ça saute.
Voilà.
Et alors, voilà.
En plus, j'ai une fille, elle a une drépanocytose. Du coup, elle est née avec. Le médecin fait PAU pour l'école. Si elle fait sa crise, mais ma journée, il ne paye pas. Il m'appelle au travail.
Donc vous êtes obligé de vous absenter ?
Oui.
Quand votre fille est malade ?
Oui.
Et il ne vous paye pas ?
Non, ma journée n'est pas payée.
Ah bon.
J'amène justificatif seulement. Sinon, ma journée n'est pas payée.
Et vous avez le droit à des allocations quand même, en plus
Oui, là maintenant on a fait le dossier, ça fait 2 ou 3 mois. Ils commencent à donner 126 euros pour elle. Parce qu'elle est handicapée, elle est née avec.
D'accord.
Ils sont tous nés, les trois ici.
Vos trois enfants sont nés ici.
Oui.
Et vous pensez qu'ici, dans les cantines des écoles, il y a beaucoup de femmes qui sont comme vous, africaines?
Oui, il y a pas mal.
Moi, ce que je peux dire et témoigner, que les caisses des écoles titularisent à la tête du client. C'est tout ce que je peux dire. Il faut qu'on arrête ça.
Ah. Donc, il y a beaucoup de femmes africaines comme vous.
Oui.
Elles sont seules avec leurs enfants aussi.
Oui, qui travaillent. Nous, on travaille, ben, on n'est pas encouragés. Ben, voilà quoi. Il y en a d'autres, ils ne travaillent pas. Ben, des fois, moi, j'ai du mal à garder. Ils font regroupement à la crèche. Des fois, je mets les trois à côté, indifférents. Après, pour aller courir, pour aller bosser.
Et alors, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Ils sont pas contents, certainement.
Si, parce que plus le boulot qu'on fait, c'est énorme, c'est fatigant. Après, l'après-midi, quand on descend, il faut les récupérer une à une. Il faut qu'on soit humaine et égaux.
Est-ce que vous avez demandé à votre chef de faire plus d'heures de travail dans votre contrat? Vous lui avez demandé?
Non, je n'ai pas demandé. Mais des fois, les mercredis avant, je travaillais beaucoup. Ben, j'ai dépassé mon plafond. Je faisais beaucoup des heures sup.
Des heures complémentaires, on dit, parce que c'est quand on est à temps partiel, on fait des heures complémentaires.
Oui.
Et c'est pas, elles ne sont pas payées plus que les autres heures.
Oui.
Non,
c'est
pas plus.
Oui, c'est pas plus.
Ah oui, donc ça devrait être obligatoire. Les heures complémentaires devraient être majorées à 25% ou 50% de plus que les autres.
Oui.
Voilà, c'est ça. Ça serait une bonne façon de sanctionner l'employeur qui recourt à ces heures-là abusivement. C'est ça. D'accord.
Des fois aussi, s'il y a les absents, on doit remplacer aussi.
D'accord. C'est intéressant.
Comme des volantes.
C'est intéressant ce que vous dites.
Ouais.
Il y a souvent des personnes absentes?
Oui, quand il y a les absents seulement, ben, nous, on est devenus des volantes. Il faut aller remplacer ailleurs.
Et vous habitez loin de Paris ou près de Paris?
Non, là, j'habite à Paris.
À Paris même?
Heureusement, oui, j'habite à Paris.
D'accord. Et vous êtes séparée depuis longtemps de votre mari ou depuis plusieurs années?
On est séparés il y a longtemps.
Depuis longtemps? D'accord, c'est vous, c'est vous.
Le 16 décembre 2004.
C'est vous-même qui avez...
J'ai des enfants, ils ne sont pas du même père.
Ah, et c'est vous-même qui avez décidé ça? Ou c'est lui qui a décidé?
Non, c'est moi qui l'a décidé.
D'accord. Ben, c'est bien, madame. Bravo. Ah.
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les sur vos trognes, pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, chère Macar.
Vous êtes toujours sur Fréquence Pas Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Excellente chanson qui s'appelait Fils d'ouvrier, voilà. Je ne sais plus qui la chantait, mais enfin, elle a été chantée par beaucoup de monde, hein, donc c'est une très très belle chanson. Alors, pendant cette émission, avec bien sûr une prévision qu'a fait l'INSEE sur une grosse augmentation des du chômage chez les jeunes à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2015, je pense. Je crois que tu as écouté une émission sur BFM Business, Ludo. Alors, qu'en disent-ils hein?
Oui, alors, oui, on écoute BFM Business à cette émission, parce que bon, c'est sympa, hein, moi j'aime bien. Et surtout, on les écoute parce que bah, des fois, il arrive qu'on entende des choses qui vont pas tout à fait dans leur sens. Donc, en l'occurrence, on peut même trouver des économistes qui sont contre les politiques européennes et qui le disent. Donc, pour tout vous dire, hein, cette émission était à 11h du soir. Alors, je sais pas si c'était une rediff, mais voilà, il faut s'accrocher. Et donc, la personne qui parlait est tristement célèbre, puisqu'il s'est de Patrick Artus, qui est directeur des études de Natixis. Donc Natixis, en fait, c'est une fusion de la Banque Populaire et des caisses d'épargne, qui a investi pas mal dans l'immobilier, donc qui a utilisé, bien entendu, les dépôts de ses clients. Et pour faire quoi aussi, ils ont à leur actif d'avoir rehaussé les crédits hypothécaires, via une filiale basée aux États-Unis puis aux Bahamas, je crois, pour leur donner une meilleure note sur le marché des prêts hypothécaires. C'est-à-dire qu'en résumé, ils récupéraient les crédits puis ils les dispatchaient en les mélangeant à d'autres produits, de toute façon à les vendre, à les mettre, en fait, à les remettre sur les marchés, à leur donner une note fiable. Donc une brillante activité d'expertise qui les a conduits, au moment de la crise, à une perte de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, ils ont perdu 95% leur action a perdu 95% de sa valeur en 2 ans. Comme quoi, ils avaient vraiment fait des grosses conneries. Ils estiment à 50 milliards d'euros d'actifs douteux encore dans leur caisse. Donc c'est pour dire que évidemment, c'est pas que bon le résultat
de grands gestionnaires
et voilà, et le directeur des études économiques, hein, donc monsieur Patrick Artus, qui est par ailleurs polytechnicien et ancien administrateur de l'INSEE, pour vous dire voilà que ces gens-là ne sont pas toujours à l'abri de bourdes phénoménales. C'est intéressant parce que oui, d'ailleurs Patrick Artus est par ailleurs membre du Conseil économique et social, c'est pour vous dire. Et c'est intéressant parce que même ces personnes-là commencent en fait à trouver les politiques européennes pesantes, lourdes, et ils expliquent très bien pourquoi elles ne peuvent conduire qu'à une augmentation du chômage. Alors je fais une rétention de cette émission. Donc Patrice Artus nous expliquait donc que certes, on a beaucoup insisté sur le déficit public des États, donc qui sont menacés, hein, parce que sur les marchés ils doivent emprunter. Sauf qu'en fait, le déficit donc public intérieur, hein, par exemple de la France, était dans la moyenne européenne avant la crise, en fait. C'est-à-dire que tous les États européens sont endettés à quelques pourcents près. Il y a l'Italie qui est un peu plus, mais que ça n'avait guère posé de problème jusqu'à maintenant, et qu'on comprend mal pourquoi les États qui sont les moins endettés, en l'occurrence l'Espagne, sont aujourd'hui ceux qui sont le plus menacés par les marchés, en fait. Hein. Et alors pourquoi? C'est que tout simplement leur balance commerciale est structurellement déficitaire. Alors, est-ce que ça joue un rôle important? Donc, selon Patrick Artis, oui, et selon surtout les agences de notation, c'est une base, en fait, indicative de l'état de l'économie, qui fait que quand, par exemple, Standard & Poor's a dégradé les notes de 9 pays européens, dont la France, ils se sont basés sur cet indicateur important.
Vous vendez moins à l'étranger, donc vous avez moins de devises. En conséquence, votre économie se développe pas.
Oui, sauf que le problème, c'est qu'on est dans l'euro. Donc, et la devise européenne, elle ne bouge pas. Et c'est là qu'il y a un vice de conception de l'euro, c'est que comme on le sait, la Banque européenne ne prête pas directement aux États.
Et oui, c'est ça le problème.
Voilà, elle ne fait pas tourner.
C'est ça la grosse escroquerie depuis 1973.
Voilà, elle ne fait pas tourner ça. Oui, alors 73, bon, c'était l'euro n'existait pas encore, mais elle ne fait pas tourner la planche à billets, hein, tout simplement, qui permettrait effectivement un ajustement. Alors, ils ont trouvé un autre mécanisme qui consiste et qui existe de façon classique, c'est en fait à emprunter plutôt que d'émettre de la monnaie. on va permettre en fait aux États d'aller emprunter l'extérieur en fait sur les marchés pour pouvoir émettre cette monnaie là.
Oui, mais le problème c'est que les banques sont aussi notées.
Et tout le monde est noté de toute façon.
Hein, et la viabilité. Donc la viabilité des banques par exemple font qu'elles ne peuvent pas proposer des taux oui. de crédit intéressants. Absolument. Parce que, par exemple, elles sont tous mis à AB.
Bien sûr, parce que la crise, en fait, le refinancement par la BCE, le prêt de la BCE aux banques, ne prête qu'aux banques, c'est à la fois pour recapitaliser les banques avec les nouvelles réglementations, et qui sont considérées avec tous les actifs pourris comme pouvant capoter du jour au lendemain, et faire en sorte que les dites banques prêtent aux États qui sont les plus endettés. Alors... Ça, j'ai su parce que c'est vrai que ça nous avait échappé en fait, hein, le fait que
c'est un mécanisme aberrant.
Exactement. Enfin, disons que c'est un peu Frankenstein, quoi. C'est-à-dire que les pays qui sont structurellement déficitaires, ils le sont pour une raison simple, enfin, qui est peut-être pas si simple que ça, c'est que maintenant on est dans une zone de libre-échange. Puisque le taux hein, de l'euro est fixe hein, entre quand vous commercez
librement faussé comme on dit
exactement oui ça bon on en reparlera mais en tout cas les économies qui sont on va dire les moins productives moins productivistes moins mécanisées voire celles qui ne baissent pas leurs salaires comme ils l'ont fait en Allemagne sont perdent régulièrement des parts de marché et pour à titre d'exemple la France voit ses écarts de avec l'Allemagne en termes de balance dans les échanges en fait de façon importante à partir de la création de l'euro le commerce extérieur est déficitaire structurellement déficitaire en France depuis 2003 je crois mais les écarts avec l'Allemagne
on produit moins et on vend moins donc on a moins de sous qui rentrent
mais surtout c'est qu'on a tendance à comme on peut plus dévaluer effectivement on absorbe tout ce qui vient de l'extérieur et qui est de qualité en l'occurrence ce qui vient d'Allemagne hein. Voilà et donc ce qui est vrai pour la France l'est encore l'est bien plus pour l'Espagne la Grèce où là il y a une industrie qui est quand même pas florissante hein, pas extraordinaire. Or ce déficit structurel via la zone euro ne peut en fait que s'accroître que il est structurel il vient de la conception de l'euro et il contraint les États à effectivement à emprunter sur les marchés puisque l'Allemagne ne veut pas mutualiser la dette, puisqu'en fait ça reviendrait si elle le faisait, c'est-à-dire mutualiser la dette, ça veut dire ou faire tourner la planche à billets ou simplement émettre des obligations en euros. Donc ça veut dire ça revient à mutualiser la dette, c'est-à-dire que ça revient à taper dans les réserves allemandes, parce que finalement l'euro baisserait automatiquement les réserves, et c'est eux qui paieraient. Et donc on comprend toute la façon de jongler via le financement privé pour que ça n'arrive pas. Alors quand vous êtes dans cette situation, puisque votre déficit, il sera, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Alors effectivement, on peut parler de jouer sur la compétitivité, blabla, mais c'est quand même pas très très efficace vu l'ampleur des dégâts. Je veux dire, sachant qu'en plus le déficit extérieur se cumule avec le déficit public, hein, donc c'est un gouffre abyssal. Il reste qu'une seule solution et Patrick Artus, qui est quand même bon, hein, qui est introduit, qui sait comment ça marche, et puis c'est des choses qu'on peut trouver dans certains documents. Mais il reste une dernière solution, c'est d'écrabouiller la demande, c'est intérieure. C'est-à-dire que pour équilibrer la balance commerciale. Il faut que les gens à l'intérieur consomment moins et achètent moins. Donc ça veut dire écrabouiller les salaires et ça veut dire aussi faire monter le chômage. Ce qui est et donc il le dit tel quel. La variable d'ajustement, aujourd'hui, c'est le chômage, vu comme les politiques européennes sont conduites aujourd'hui. Et donc, alors il fait un calcul, je ne sais pas d'où ça sort, mais enfin, on peut peut-être faire confiance, il dit, si on voulait vraiment réduire, équilibrer la balance extérieure, eh ben, il faut que le chômage, qui est aujourd'hui de 24% en Espagne, monte à 28%. Et puis en France, eh ben, il faut qu'il monte à 18.
À 18, d'accord.
Voilà. Et donc, conclusion, on est parti sur... un chômage de masse et de longue durée. Et donc la question, et c'est lui qui le dit, se pose plus que jamais de savoir si oui ou non on peut encore rester dans une zone euro telle qu'elle est construite. Voilà. S'il ne faut pas reconstruire une autre zone euro avec les pays qui sont plus faibles, comme l'Espagne, la Grèce.
Donc sortir de la zone euro pour en faire une deuxième, c'est un peu compliqué tout ça, non?
Oui, mais sauf que on peut difficilement imaginer une sortie de l'euro par un pays comme ça. Ça serait de toute façon une sortie négociée. Or effectivement, on peut avoir intérêt, certains pays peuvent avoir intérêt à, il faut rappeler qu'en fait les pays du Nord, un nombre important de pays du Nord ont des choses communes avec l'Allemagne, le fait par exemple d'eux-mêmes d'exporter tout en ayant un endettement fort. Donc d'accord. Pour certains pays du Nord, ça c'est quelque chose qui marche. Et puis dernière remarque, parce que je regardais ces histoires de balance commerciale, en fait de balance de paiement, tout ça sur les graphiques, et ben les économies qui sont les plus libres échangistes, c'est-à-dire les États-Unis et le Royaume-Uni, sont celles dont la balance commerciale est structurellement la plus déficitaire de toutes.
D'accord. Tu voulais intervenir, Christophe ?
Oui, juste pour dire une chose, ça pose encore le problème de l'organisation du mondial du commerce et puis du protectionnisme, c'est tout. On paye les retraites des Chinois. Mais non, mais c'est vrai, voilà. Tant qu'il n'y aura pas de régulation financière dans la zone euro et de protectionnisme, on ne résoudra pas le problème. Qu'est-ce que tu veux faire avec un truc qui est fabriqué un euro, qui est vendu 1,50 € et toi, avec des charges, tu vas le payer 20 fois plus. Tu peux rien faire.
C'est clair, oui.
Le problème de fond, il est là. Voilà pourquoi il ne fallait pas signer le traité de Maastricht. Voilà pourquoi il ne fallait pas signer
non, mais l'Europe aurait pu être protectionniste. Hein, mais c'est aussi un choix qu'elle ne le soit pas. Enfin, l'Europe n'est pas responsable du choix de protectionnisme ou de non-protectionnisme, en fait.
Elle aurait pu dire non.
Ce sont les banques qui dirigent et puis les grandes entreprises, en fait. Hein, donc, est-ce que les élus ont un véritable pouvoir?
Moi, je crois que c'est les capitaux qui dirigent.
Ah oui, quand je parle des banques, c'est ça.
Ah oui,
d'accord. Qui sont dans le...
Je veux dire, c'est aussi des rentiers. C'est aussi un peu, voilà. C'est des fonds, oui, institutionnels qui placent. C'est ça qui fait qu'on a besoin d'avoir une zone euro qui soit stable à tout prix. C'est-à-dire que ce qui pourrait se passer, c'est que on pourrait laisser l'euro flotter ou dévaluer, tout simplement.
Alors, et pendant ce temps-là, chez les riches. Alors, on pourrait en parler, mais peut-être après une petite chanson.
Voilà. D'abord, c'est côté une petite chanson. To the Casbah Club. London Calling, c'était la chanson des Clash, vous avez tous reconnu, bien sûr, célèbre chanson, s'il en est. On reprend cette émission Mode d'emploi sur fréquence Pipe Royale 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, chômeur et précaire. Je suis donc avec Ludo et Christophe au micro, salut à tous les deux.
Bonsoir.
Pour ceux qui viennent d'aller sur la radio. Claude à la technique et Gilles également au micro. Donc ce soir, on parle évidemment du chômage, mais également des riches, Christophe.
Et oui, parce qu'il y a eu un reportage sur France 2 dans Envoyé spécial jeudi dernier, donc cette semaine, sur les riches. Et alors, le point de vue de la journaliste qui a fait ce reportage était un point de vue qui présentait la manière de penser de ces personnes-là. Il y avait trois exemples. Il y avait d'abord quelqu'un qui, effectivement, au départ, était simple représentant en assurance à 25 ans, sans diplôme, au porte-à-porte, et qui est devenu une des plus grosses fortunes de France en gérant un groupe immobilier de maisons de retraite. Plus de 120 maisons de retraite, donc jet privé, 600 millions d'euros de patrimoine.
Ouais, c'est pas lui qui a créé la boîte, là.
Lui qui a créé la boîte. Et en fait, je vais t'expliquer le mécanisme. Ensuite, le deuxième exemple, c'est un nouveau rentier de 45 ans. Qu'a créé rueducommerce.com. Voilà. Et la troisième exemple, c'est une dame très distinguée, qui est Madame Sheffard, une des plus grosses familles fortunes de France, qui elle a acheté pour 30 millions d'euros un domaine, le château Maison Lafitte, hein, dans le Bordeaux, etc., en faisant fructifier son entreprise. Alors, il y a trois points de vue intéressants. Le premier point de vue, le premier aspect, c'est que ces gens-là ne s'estiment jamais riches. C'est-à-dire qu'ils disent, il y a plus riche que moi. Ça, c'est intéressant. Le deuxième constat, c'est que ils vous disent oui, mais on est extrêmement taxé et même avec les droits de succession, on perdra une partie de notre fortune. Nous avons beaucoup d'amis qui sont partis à Genève, je veux dire en Belgique, à Londres, du fait des avantages fiscaux, etc. Il y a un troisième. Et alors, les justifications. Alors, ça, c'est déjà le premier point. Il y a, je suis riche, je ne le reconnais pas parce qu'il y a plus riche que moi. Le deuxième la deuxième chose, c'est que ils estiment que c'est normal parce que c'est dû à leur talent, à leur mérite. Et alors, l'argument numéro un, oui, mais moi, monsieur, j'ai créé des emplois. Sauf que voilà, la fortune de ces personnes-là, et alors il y en a un qui est vraiment, celui qui est le plus riche, qui a plus d'un demi-milliard d'euros de patrimoine, il le dit, mais attendez, moi ma fortune, je fais aussi pour créer de l'emploi. Donc il réinvestit pas son fric, il a ses collections de voitures de luxe phénoménales, mais par exemple, il a investi de son propre argent lorsque des entreprises se cassaient la figure pour reprendre les employés et puis il a géré des trucs. Parce que il est vraiment.
C'est des patrons philanthropes en fait.
C'est un mec qui est entrepreneur dans l'âme. Mais voilà quoi. Et il dit mais je profite pas de mon argent, je continue tout le temps de travailler.
Bah, c'est bien, ils ont pris des exemples d'actifs qui réussissent.
Voilà, c'est l'actif, mais c'est le. Mais alors, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que ce mec-là. Il a cette posture-là parce que à la base, il est parti de rien. Il avait 25 ans, vendeur en assurance, même pas le bac, machin. Il a fait que trimer. Le deuxième exemple, le gars qui a créé ruedu-commerce.com, et c'est là où ça commence à poser un problème, c'est que lui, c'est un gros fils de bourge. Il est né avec une cuillère en argent massif. Et lui, il a profité de la finance et de la mise en bourse de son entreprise pour prendre ses parts. Et puis, aujourd'hui, il est rentier, il fait des voyages, c'est la belle vie, quoi. Donc, je veux dire, mérite zéro. Et la troisième, la brave dame élégante qui crée une entreprise grâce à du vin de luxe, n'est-ce pas, elle a aucun mérite. C'est une des plus grandes familles de rentiers de France. Voilà. Alors, ce qui est absolument consternant dans cette histoire, c'est que ces gens-là vous font toujours le discours « Nous n'avons pas d'argent, nous sommes trop taxés ». Et à ce moment-là, dans le reportage, arrive un économiste de l'INSEE. Et il prend un graphique. Il dit « Voilà, quand on a entre 0 et 3 000 euros, on est les plus taxés au niveau de l'impôt. »
Ah oui, en pourcentage.
En pourcentage. À partir de 3 000 euros,
via la TVA.
10% des Français les plus riches, on commence à être moins taxé. À partir de 7500 euros, on fait partie des 1% des Français salariés qui sont les plus riches. Sauf que ce que vous disent pas ces gens-là, c'est-à-dire que moi, si je prends mon graphique et je prends les revenus du trader, le numéro au monde qui s'est fait 3 milliards d'euros, mon graphisme, il va jusqu'à Marseille. Parce que ces gens-là, en fait, ont mis dans des capitaux, c'est-à-dire travailler de l'argent virtuel pour accroître leur richesse.
Ben oui, c'est obligé.
Donc le discours qui consiste à dire je suis riche parce que j'ai créé de l'emploi, c'est totalement faux. Et ils sont beaucoup moins taxés que les classes moyennes. CQFD. Et alors dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est normal. Donc on voit bien le système qui est que être riche n'est pas simple, et il y a un discours de classe qui est complètement aberrant et que ces gens-là ne sont absolument pas dans la réalité. Et alors, ce qui est étonnant, c'est le gars qui est issu de la bourgeoisie avec une énorme cuillère en argent massif en guise de naissance et qui dit « Ah ouais, mais moi, mon pauvre monsieur, j'ai trimé toute ma vie pour bâtir ma fortune et ensuite, quand j'ai vendu mes parts de marché, j'ai le droit de me prendre une retraite et d'être rentier, de profiter à 42 ans. »
Ouais, c'est vrai. Ce qui est curieux avec
Le mec, et la femme de ménage qui est précaire et qui vit l'enfer, là, qu'on a entendu tout à l'heure, elle trime aussi. Mais en plus, elle a la violence sociale. C'est intéressant comme concept.
Mais c'est vrai qu'il y a une proportion chez les journalistes. Ça prend toujours le cas exceptionnel pour en faire. C'est-à-dire que si ce cas-là exceptionnel existe, il y a toute la gamme intermédiaire de gens qui ont peut-être pas réussi si bien que ce jeune homme, mais qui ont réussi, enfin qui peuvent être satisfaits de leur vie. Donc il y a les autres, les autres cas. On peut espérer qu'ils aient pris des cas qui sont représentatifs, mais on peut se demander si légitimement le cas de cette personne de 25 ans qui a commencé avec rien est représentatif. On peut sérieusement en douter.
Elle n'est absolument pas représentative pour conclure sur ce sujet, et il est malheureux de constater dans ce même reportage que si tout cet argent gagné, ces gens-là se réunissent dans des plus beaux restaurants et palaces de la capitale pour quoi faire de l'optimisation fiscale.
Mais je sens un peu dans ta voix, Christophe, que tu es un petit peu jaloux. Peut-être que si tu avais gagné.
Ah oui, oui. Enfin, j'aimerais bien.
T'aimerais devenir riche, en fait.
Loto,
hein,
oui, j'aimerais bien avoir un certain confort.
Parce que si tu gagnes, si tu gagnes 1 million d'euros au loto, je suis sûr que tu le donneras à la fréquence périploriale, quand même.
Ça, c'est pour les petits joueurs.
D'accord. Bon.
Alors, pour en parler plus sérieusement, enfin, sur un autre sujet.
C'est qu'un début, 1 million.
Voilà, c'est le rêve des grandeurs en plus.
Alors, on va parler un peu maintenant de l'enquête, de quelque chose qui me touche profondément, c'est un petit peu la dureté du travail hein, pour beaucoup de salariés. Hein, donc, les emplois, non seulement ils sont précaires pour beaucoup, mais c'est aussi difficile, les emplois difficiles. C'est pour ça que d'ailleurs, on réfléchit sur une retraite pour que les gens puissent partir à la retraite avant 60 ans, voire à 60 ans pour ceux qui ont des boulots difficiles. C'est la dureté du travail. Hein.
La pénibilité
du travail.
Ah oui, tenir un marteau piqueur, c'est pas la même chose que de refaire des dents.
Exactement. Alors, l'enquête de la DARES, donc le ministère du Travail, qui a appelé son enquête Summer, c'est surveillance médicale des expositions aux risques professionnels, qui sont réalisées en général tous les 9 ans par 2400 médecins du travail auprès de 48 000 salariés du public et du privé, vient de rendre son enquête. Il faut savoir qu'un salarié sur trois est exposé au moins à un produit dangereux. Brûlure, irritation, réaction allergique, cancer. Ce qui correspond à 7 millions de salariés quand même.
C'est énorme.
Énorme.
Là, c'est dû à l'industrialisation de notre société hein, et la diversité des produits. Hein.
Enfin, nous, on croyait qu'on était une société qui était de moins en moins industrielle. Donc, ça reste beaucoup.
Ça reste énorme. Il y a également les contraintes de rythme, ce qu'on appelle les cadences automatiques. Hein, donc, les gens à la chaîne, etc. La dépendance immédiate vis-à-vis des collègues, donc les collègues demandent de rendre un travail dans l'heure, etc. Ils ont déjà deux boulots en même temps. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Le délai de production à respecter dans la journée, les contrôles permanents de la hiérarchie passent de 28%. C'était 28% hier et c'est passé à 36% aujourd'hui. C'est-à-dire un salarié sur trois qui est donc dans ce cas-là de cadence infernale au travail.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il mélange à la fois les problèmes qu'on peut rencontrer des salariés dans l'industrie, oui. Hein, c'est-à-dire les cadences infernales, l'exposition aux produits dangereux, et puis des problèmes que peuvent supporter des employés, des employés de bureau, qui sont le stress en fait au travail
harcèlement moral. Absolument. Mais là, parce que l'enquête, c'est bien, ils ont fait des chapitres. Hein, moi, je résume. Hein,
Mais c'est de la souffrance aussi au travail.
Absolument. Donc ça, c'est quand même important. Il faut savoir qu'un salarié sur trois travaillait 40 heures il y a 20 ans. Et aujourd'hui, c'est un salarié sur cinq, hein, donc à peu près 20% de salariés, qui travaillent moins de 40 heures, donc 35 heures, grâce aux 35 heures, bien sûr.
D'accord. Donc ça, c'est plutôt un progrès. Alors.
C'est plutôt un positif, voilà.
Il faut savoir qu'à une nuance près que ce chiffre est faussé pour la simple et bonne raison que les heures supplémentaires ne sont pas payées dans la fonction publique, ça concerne quand même près de 5-6 millions de salariés. Oui. C'est des récupérations de temps de travail qui sont et les politiques publiques aujourd'hui amènent ces gens-là à proposer en échange des trimestres de retraite supplémentaire puisque les gens ne peuvent pas avoir leur retraite à taux plein pour une raison par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le compte épargne-temps. Oui. Donc la réalité du fonctionnaire assoupi qui fait ses 35 heures peinards, elle n'existe plus.
Oui, et puis même selon les études, enfin on travaille plus que 35 heures, l'ensemble des Français travaille plus que 35 heures.
Oui, je suis d'accord.
Pas
forcément payé, bien sûr. Mais là, c'est quand même un calcul sur un ensemble, sur un panel hein, d'enquêtes. Donc
tu dis combien de salariés alors ?
Alors maintenant, c'est un salarié sur cinq qui travaille 30. C'est un salarié sur cinq qui fait 35 heures.
Donc qui est juste 30 heures. Le reste travaillant plus alors ?
Le reste travaillant ou moins à cause des travaux précaires ou plus surplus. Il faut savoir qu'également, il y a 63% des cadres qui travaillaient plus de 40 heures hier, hein, il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 18%. Il y a 20% donc des cadres qui travaillent plus de 40 heures. Donc, c'est quand même un progrès aussi, il faut quand même le noter.
La tendance est à la baisse du travail, à la baisse de la durée du travail.
Il faut rappeler également que travailler debout, porter des charges, travailler à la chaîne, être soumis à la vibration, comme tu parlais tout à l'heure, hein, c'est quand même 46% des travailleurs en 1994, et maintenant c'est moins de 40% en 2010. C'est-à-dire qu'il y a eu un gain de 9 millions de personnes.
Mais on vit dans une société formidable.
Voilà, donc on devrait être content. Hein, bon. Bon, voilà, donc ça c'était le travail de la DARES, une enquête de la DARES que vous pouvez retrouver sur leur site, j'imagine. C'était juste pour vous donner une petite idée, un petit peu des chiffres. Donc, on travaille beaucoup moins en France qu'on travaillait hier, ce qui est bien, à cause grâce aux 35 heures.
On travaille de façon sur des cadences peut-être plus soutenues.
Et voilà, mais voilà.
Des cadences beaucoup plus soutenues.
On a un taux de productivité
plus fort qu'en Allemagne. Hein.
Le salarié français a le taux de productivité d'un des plus forts du monde parmi les pays développés. Clairement, si ce n'est le plus fort.
Ça, c'est à cause des 35 heures.
Mais il faut également, dans les chiffres en question, et c'est, je les ai pas notés, mais elles ont été dites, c'est également tout le travail précaire, hein. Il y a quand même 9 millions de gens qui souffrent au travail, hein, qui sont dans des situations incroyables. Donc ça, quand même, faut quand même le noter, hein.
Ouais, c'est clair, oui, bien sûr, ouais. Oui. Enfin, je veux dire, la réforme des retraites est particulièrement juste pour ces gens-là.
Absolument.
Parce que pour certains, ils sont même pas en capacité de travailler, je pense aux ouvriers du bâtiment, bien entendu, mais il y a pas que, enfin, les ouvriers d'usine, passer 55, 60 ans, du fait des maladies professionnelles, justement. Là, il peut y avoir un vrai problème pour toucher la retraite si on ne peut pas travailler jusqu'au bout.
Alors moi, j'ai un slogan pour les prochaines présidentielles qui sont bientôt, qui sont donc dimanche et dimanche suivant, donc dans les deux semaines qui vont venir.
Nous ne rentrons pas dans la campagne. Hein.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais moi, je ne rentre pas dans la campagne, j'invite personne. Je dis simplement, travaillons moins pour gagner plus. Voilà, donc là, sur ces belles paroles, je vous propose une chanson et ensuite on parle d'autre chose. Rien ne vaut un peu de jazz pour apaiser, pour la paix sociale. On va dire ça comme ça.
Oh, qu'est-ce que c'est beau, tu deviens
beau,
poète.
Voilà. Alors dis-moi, Christophe, comment le gouvernement subventionne les licenciements aujourd'hui ?
Alors ça, c'est un véritable problème de société, puisqu'on va parler du chômage à temps partiel. C'est un article de nos confrères de Basta. En fait, il faut savoir que le chômage à temps partiel est présenté comme un véritable instrument de lutte contre le chômage et un moyen pour les entreprises françaises de faire face à la compétition mondiale. Il faut savoir que le dispositif de chômage à temps partiel concerne 90 000 salariés chaque mois et coûte près de 600 millions d'euros par an. Sauf que ce chômage temporaire subventionné permet aussi de retarder en fait des licenciements. Le revers de la médaille est moins reluisant, promesse de maintien dans l'emploi non tenu, absence de formation pour les salariés concernés, voici un petit bilan. Mettre à pied des salariés plutôt que les licenciés, ça permet, quand les carnets de commandes se dégarnissent, c'est le principe du chômage à temps partiel, appelé aussi chômage technique. Donc, arrivé dans les politiques de l'emploi françaises dans les années 20, cet outil de régulation a été réactivé et assoupli en 2008. Devinez par qui ? Monsieur Sarkozy.
Pour s'est inspiré des Allemands.
Voilà, exactement, pour, soi-disant, absorber le choc de la crise. Sauf que voilà, alors première problématique, le chômage à temps partiel a fait l'objet d'un large consensus chez les syndicats. On croit rêver. C'est-à-dire que patrons, syndicats de salariés, gouvernement sont globalement positifs pour accorder et simplifier l'utilisation de ce dispositif afin d'en faciliter les recours.
C'est normal, ils pensent à leurs salariés. C'est 80, t'es indemnisé à 90%, je crois, de ton ancien salaire.
Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que le problème, c'est que cette année a été financée pour 600 millions d'euros d'impôts pour sauver 18 000 emplois. Donc, si tu veux, ça fait quand même plusieurs milliers d'euros.
Et alors, ça a énormément augmenté. Hein. Au départ, ça coûtait quoi, une centaine de millions.
Parce qu'au départ, en fait, cette mesure de régulation du chômage à temps partiel, c'était 11 millions en 2007. Et ça a atteint en 2009 350 millions pour maintenant être à 600 millions. Donc, l'État s'est engagé, le principe, à payer 4,84 € de l'heure pour les entreprises employant jusqu'à 250 salariés et un peu moins pour ceux qui ont plus de 250 salariés. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que le jeu en vaut la sandelle, puisque M. Sarkozy s'est inspiré, encore une fois, du modèle allemand. Les défenseurs assurent que ça a sauvé l'économie allemande du naufrage, puisque selon l'Organisation du commerce mondial, ça a sauvé donc l'OCDE, ça a sauvé un peu plus de 221 000 emplois, pour seulement 18 000 en France. Sauf que ce moyen de régulation en Allemagne a des contreparties qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous propose en France. C'est-à-dire que la réalité est très simple, c'est qu'il y a un manque complet de contrôle sur l'obligation faite aux entreprises ayant recours au chômage à temps partiel, puisque la fameuse APLD qui permet de toucher de 90% de son salaire net et en fait et à préserver des emplois et utilisé ne semble malheureusement pas automatique de ce côté du Rhin, sachant que c'est régulièrement utilisé en Allemagne. Donc déjà, en plus à la base c'est quand même prévu en cas de grave menace sur l'emploi. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Et ben entre deux chômages de temps partiel, ça tourne tellement vite que les personnes qui ont des problèmes physiques n'arrivent plus à suivre et finissent par être licenciées pour une inaptitude au travail. S'insurge Fabrice Leca, élu CGT à l'usine PSA de Rennes. On pourrait clairement calmer les cadences et réduire le nombre de jours chômés. Les moments de moindre cadence pourraient être utilisés pour le nettoyage, le rangement, les réparations ou des échanges entre production et maintenance.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, les cadences deviennent tellement...
C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises automobiles, qui représentent 10% de l'activité industrielle en France, utilisent ce moyen. Pourquoi ? Eh ben, tout simplement
augmenter leur productivité.
Oui, déjà d'une part, et créer des formes extrêmes de flexibilité. C'est-à-dire qu'on a côté, on arrive à une chose absolument aberrante, notamment grâce à la loi TEPA. C'est-à-dire chômage partiel d'un côté et quoi de l'autre, heures supplémentaires. Bah oui, c'est défiscalisé. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe par exemple à l'usine Peugeot de Sochaux ? Il arrive fréquemment que la chaîne soit arrêtée, mais que les salariés en bout de l'usine, chargés des révisions, fassent des heures sup, cherchaient l'erreur. Et ce cumul, ça permet quoi ? Grâce aux fameuses aides publiques et à la loi TEPA, pour la compétitivité des entreprises, ça permet tout simplement de toucher deux fois des aides publiques. Un, pour les heures supplémentaires défiscalisées. Deux, pour le chômage à temps partiel. Et évidemment, les grands groupes automobiles se sont engouffrés dans la brèche. Donc on arrive à une forme de subventionnement public qui ne dit pas son nom et qui permet aux entreprises de ne pas mettre la main à la poche. Alors je vais te donner un petit exemple extrêmement intéressant. Ça permet de subventionner des mauvais emplois, mais par exemple, cette réalité économique ouvre tout simplement la porte à de nouveaux abus. Ainsi, l'usine de PSA Rennes a refusé, ses représentants syndiqués ont refusé de signer l'accord sur le chômage à temps partiel parce qu'ils savaient que ça ne touchait pas à la trésorerie de Peugeot. C'est-à-dire que le patron, en gros, il n'allait pas mettre la main à la poche grâce à ce système-là. Donc, entre-temps, on promet aux salariés de faire des soi-disant de formations qui s'avèrent être des stages bidons. Comme par hasard, cette utilisation du chômage à temps partiel qui ne répond absolument pas à des emplois pérennes, les gens qui sont touchés dans le milieu industriel sont souvent les intérimaires et les CDD. Sauf que qui dit temps partiel dit prime de rentabilité en moins. Donc des fois, ils ont carrément sur leur 1 500 € de salaire, 500 euros en moins par mois. Donc en gros, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à acheter la paix sociale en période électorale, puisque par exemple, sur un site strasbourgeois d'une très grosse entreprise et qui était prestataire de l'automobile, cette entreprise a utilisé les techniques de subventionnement dont je te viens d'indiquer, alors qu'elle avait fait au cours de la même année 40 millions d'euros de bénéfices.
Et voilà. Une fois de plus, c'est le contribuable qui paye le chômage.
Exactement. Donc, il y a une nécessité. Le chômage partiel permet au système tout simplement de perdurer sans remise en cause fondamentale. C'est QFD.
Merci Christophe. Alors, une dernière petite annonce. Je tiens à souhaiter un très très bon anniversaire à Odile qui vient de fêter ses 35 ans, bien sûr. Bon anniversaire à ma puce. Voilà, c'était... Petit clin d'œil. Un peu de tendresse dans ce monde de brut, hein, Ludo. Hein.
Oui, voilà. J'avais aussi une petite annonce. C'est le rapport du Mouvement National des Chômeurs et Précaires, donc le MNCP, c'est des collègues d'AC, vient de sortir, et c'est le premier rapport 2001 sur la situation des chômeurs, chômeuses et précaires, fait par une association de chômeurs. Il est disponible en ligne. Je vous recommande d'aller le consulter. C'est très intéressant.
Merci à tous les trois. Voilà, donc cette émission se termine. Merci messieurs de l'avoir faite. Merci messieurs dames de l'avoir écouté, entendu. Je vous dis bien sûr, dans 15 jours pour nous en tout cas, mais bien sûr la semaine prochaine, c'est une autre équipe de Mode d'emploi qui fait l'émission. Copernic, c'est ça, voilà.
Oui, c'est Copernic.
C'est Copernic. Très bien, donc bisous aux filles et poignées de mon garçon. Salut.
Bonsoir.